Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Et dès le lendemain après-midi, il sort pour aller dans la rue de Sylvain. Et tout est tité, le papier à la main. Sylvain habite rue Sully. Au fur et à mesure qu'il se rapproche de sa rue, il ralentit le pas, se sent moins sûr de lui.
C'est pas pour acheter, monsieur. Je cherche un emploi.
Il est même gêné d'aller là-bas. La honte et la peur d'être vu par une de ses connaissances, même par Sylvain. Que lui dira-t-il? Pourquoi est-il dans sa rue? Non, il aurait trop honte de cette rencontre. Malgré tout, ses pas le mènent rue Sully, petite rue calme avec des immeubles et petites maisons bourgeoises. Pendant un moment, sa honte passe et regarde tout avec curiosité et amour. Voilà sa rue, la rue où il est, l'école où il a peut-être été, son école. Les passants qui marchent tous les jours le voient, les arbres qu'il voit, l'air qu'il respire, car bien sûr, où habite l'être aimé, l'air n'est pas le même que dans un autre quartier de Lyon. Il voit une église, se dit que c'est son église, a envie d'y rentrer pour voir l'intérieur, prend papier pour voir le numéro de son immeuble, numéro 20. Cherche le numéro 20 et le trouve. Enfin, son immeuble. Un petit immeuble cossu du début du siècle, de 4 étages. Il regarde bien la façade et se demande quelles sont ses fenêtres. Passe devant l'allée, mais n'ose pas y rentrer. La porte est fermée. Il ne peut voir à l'intérieur. Il passe plusieurs fois devant. Puis reste un moment pour voir l'immeuble de face. Il est tout ému. Une femme sort de l'immeuble voisin, passe devant lui en le regardant. Cela le fait rougir. Il a honte. Tout à coup, il repense à Sylvain, qui peut la percevoir. Et quelle honte ce serait! Alors il regarde une dernière fois la rue et l'immeuble et s'en va. Il est triste et a l'impression de quitter son chez-lui. Les autres lieux de Lyon lui paraissent étranges, étrangères. C'est pas sa rue. Tristement, il entre chez lui. Une fois chez lui, il se dirige à sa chambre pour penser à tout ce qu'il a vu. Il s'allonge. Il est heureux. Il sait où il habite, ce qu'il voit. Et comme cela, il pourra désormais penser à lui, dans sa rue. Puisqu'il aime Sylvain, il aime cette rue. Il aime son immeuble. Il se dit qu'il aurait aimé y vivre toujours. Bien entendu, dans cette excitation rêveuse, il ne peut écrire ou écrire que des choses sans importance pour les autres. Toute la journée, il pense à cette rue et la garde comme un trésor dans son corps. Lorsque la nuit, il veut à tout prix rêver à Sylvain et regarde le papier où il y a l'adresse en pensant à lui très fortement. Malheureusement, les rêves sont capricieux. Cela l'énerve. En se réveillant, il se sent de mauvaise humeur. Puis, le doux visage de Sylvain lui revient en esprit. Alors il est pris d'un amour fou. Tout le matin, il ne peut rien faire. Même son petit déjeuner ne passe pas. Sa mère lui demande « Mais qu'as-tu ce matin? Tu es malade ?»«
Moi, non, merci. »
L'après-midi, malgré la peur d'être vu, il a envie d'aller dans sa rue. Il y va, le cœur battant, heureux de voir sa rue. Et comme la première fois, il a honte en y arrivant. Mais il le fait tout de même. Ralentissant le pas, en s'approchant de son immeuble pour le regarder bien, sans s'arrêter. Il aimerait entrer dans son allée, mais n'ose pas. Il fait plusieurs fois la rue. À la sortie des élèves, il se demande comment il était lorsqu'il était enfant. Il devrait être sûrement beau et sage, comme sa mère a dû avoir la chance de l'avoir toujours près d'elle, le voir grandir, lui apprendre les choses de la vie, le laver, le soigner, lui laver son linge, lui donner à manger, comme j'aurais aimé faire tout ça, le protéger. Lorsque nous serons amis, je m'occuperai de lui. Il sera heureux. Il ne manquera à rien. Alors, il se met à rêver à une vie en commun, à deux. Il ne se rend pas compte, tellement son amour est fort, que cette vie en commun ressemble à une vie entre père et fils, sans sexualité, sauf l'érotisme de le voir. Il ne pense même pas à ses parties intimes. C'est un amour idyllique, sans sexe. Il retourne tous les jours à la rue. Il ne peut s'en empêcher. Et malgré lui, c'est comme un acte d'amour. Il se sent plus à l'aise en y allant. ça le gêne moins. Et puis, il est dans ses rêves. Il sent qu'il commence à faire partie du décor, à la façon dont les gens le regardent et le croisent. Cela lui fait plaisir. Maintenant, il connaît sa rue par cœur. Et son immeuble aussi. Les fenêtres qui restent toujours fermées. Les rideaux que l'on change. Mais aucun indice ne lui dit où est son appartement. Quelle fenêtre est à lui? Tellement il est dans ses rêves que ça ne le gêne plus de ne pas le voir. Il se rend même pas compte que l'objet amoureux passe, que ses rêves et son décor le fait revivre. Il se rend pas compte que l'objet amoureux est absent de ses rêves. De la réalité. Les jours passent. Cet amour pourrait durer des années. Un jour, il voit sortir de l'allée de l'immeuble une femme. Cela lui donne envie de rentrer. Prenant son courage à deux mains et corbattant, il va ouvrir la porte d'entrée. La porte s'est refermée avec fracas. Le hall d'entrée de l'allée est de taille moyenne, claire. Les murs blancs, le sol en mosaïque, escalier de pierre. Il regarde les noms aux boîtes aux lettres. Voit le sien. François Dupin, deuxième étage. Regarde bien ce nom. Le touche. Et comme il entend des pas dans les escaliers, il se sauve en courant. Pourvu que ce soit pas lui, qu'il ne m'ait pas reconnu. Quelle honte! De temps en temps, il retourne dans l'allée, en faisant attention de ne pas être vu. Un jour, il a le courage de monter, en sueur, les jambes tremblantes, jusqu'à son étage. Et voit sa porte arrière, mais redescend de suite. Si la porte s'était ouverte, et que ce soit lui, que lui aurais-je dit? Malgré tout, il est heureux d'avoir pu voir où il habitait. Les jours passent. Chez lui ne parle à personne, et personne n'ose lui parler, car il sent tellement dans un autre monde. On pense que c'est dû à son roman qu'il écrit. Les jours passent ainsi. Il va très rarement dans l'allée de l'immeuble, mais lorsqu'il y va, c'est pour toucher la boîte aux lettres et baiser le nom. Il gonfle d'amour pour ce Sylvain qu'il n'a vu qu'une seule fois, et peut-être lui l'a complètement oublié. Un après-midi, qu'il est rue Sully, marchant, rêvant, sans faire attention à ce qu'il voit, mais tout à coup, sa lucidité vient et lui montre qu'arrive vers lui Sylvain. Il vient droit vers lui, en marchant d'un bon pas, le sourire aux lèvres. Après tout ce temps, il le reconnaît de suite. Il le trouve très beau, plus beau que dans son souvenir. Bien sûr, il a honte et peur. Que va-t-il lui dire? Il aimerait le voir et ne pas être vu. Il a le cœur qui bat fort. Voilà, il est tout près de lui. Il ne sait que lui dire. Sylvain lui dit: bonjour, quelle surprise! Je lui dis: oui, quelle surprise, ça fait longtemps qu'on ne s'était vu. Sylvain lui dit: vous me cherchiez? Je lui réponds: non, pourquoi, vous habitez ici? Oui, dans cette rue, l'immeuble au coin là-bas. C'est vrai, je ne vous avais pas donné mon adresse. Que faites-vous en ce moment? Rien de spécial, je me cherchais pour me détendre un peu. Après des heures d'écriture, cela fait du bien. Sylvain lui dit: ah oui, c'est vrai, vous écrivez. Et votre sœur va bien? Ma sœur? Oui, elle va très bien. Il ne se souvenait plus qu'il avait fait la connaissance de sa sœur. Sylvain lui dit: bon, eh bien, je vous laisse. Ou si vous voulez venir boire un verre chez moi? Non, merci beaucoup. Sylvain lui dit: ah oui, je comprends. Vous avez sûrement beaucoup à faire. Je lui réponds: oui, beaucoup. Sylvain lui dit: alors au revoir. Au revoir. Et Sylvain s'éloigne. Jules, furieux contre lui-même, le regarde s'éloigner. Une fois qu'il est rentré dans son immeuble, il part furieux. C'est qu'un imbécile. Un imbécile. Il va croire à la façon dont je lui ai parlé, c'est que je ne veux pas le revoir. J'étais trop sec. Je l'ai perdu, c'est de ma faute. Oh mon Dieu! Et pourquoi ai-je refusé d'aller chez lui? J'ai raté la plus belle occasion. La seule, peut-être la seule occasion de voir comment était son décor, sa chambre et tout. Et pourquoi ai-je refusé? Je suis qu'un imbécile idiot. Elle était en feu. La peur de l'avoir perdue. Et en même temps, ne peut s'empêcher de s'imaginer sa visite chez lui. Et de revoir ce beau visage et sa démarche, même de dos, il est beau, beau. Il se dépêche de rentrer chez lui pour pouvoir rêver en paix. Malheureusement, ses rêves sont troublés par la peur de l'avoir perdu. J'étais trop brusque. Il a dû penser que je n'avais pas envie de le voir ou que ça m'agaçait de le revoir. Et puis, il a voulu me faire plaisir en m'invitant. Mon refus a dû le froisser. Il retourne dans sa rue en ayant peur de le rencontrer. Et en même temps, il le souhaite, car il pourra savoir s'il est fâché contre lui. Et si tu voulais toujours de son amitié. Lorsqu'il est dans sa rue, il passe en vitesse, de peur d'être vu. Si je le rencontre, que pourrais-je lui dire? La première fois, je pouvais lui dire que je ne savais pas où il habitait, qu'il habitait dans cette rue. Mais maintenant, s'il y a des surprenants, c'est que je peux lui parler ainsi facilement et lui dire n'importe quoi. Le mensonge serait-il une chose naturelle? Je devrais avoir honte d'agir comme ça avec lui. Lui qui est si pur, qui n'a aucune arrière-pensée. Je suis sûr qu'il ne viendrait même pas à l'idée que je suis follement amoureux de lui. Pour lui, ce genre d'amour ne doit pas exister. Il est si pur. Et avec les filles, les femmes. Je suis sûr qu'il ne doit même pas connaître les choses. Il ne doit rien savoir ces choses du sexe. Un ange. Un véritable ange. Jules est comme beaucoup de personnes. Lorsqu'il voit un beau visage, il pense à pureté et innocence. Pourtant, ça n'a rien à voir. Mais le symbole, le pur et beau. Les jours passent. Notre pauvre Jules est toujours dans ce rêve amoureux. Depuis sa rencontre, il n'ose plus s'arrêter devant son immeuble, ni regarder les fenêtres. Il passe en vitesse. Un après-midi, il voit sortir de chez lui Sylvain, qu'il reconnaît et lui court après. « Bonjour. » Il a toujours ce beau visage, yeux bleus profonds. « Bonjour. » Sylvain lui demande. « Tu te promenais ?»« Oui. Moi, je sors parce que je suis tout seul. Et puis, j'ai travaillé à étudier l'électricité. Tu allais quelque part ?»« Non, pas vraiment. » Sylvain lui dit. Je ne peux pas t'inviter chez moi, ma mère est absente. Mais si tu veux, on peut aller dans un café un peu plus loin. Jules sourit et lui dit, oui, je veux bien. Il se dit qu'il ne veut pas gâcher sa chance. Qu'il ne doit pas faire l'imbécile. Et se jure qu'il ne sera jamais que son ami. Oh non, il ne veut pas le perdre. Souiller son ami. Non. Il veut être que son ami. C'est tout ce qu'il demande. Sylvain le mène dans un café salon de thé vers l'avenue de Saxe. La salle est grande, style rococo. Ils vont s'asseoir à une table dans un coin tranquille. Il y a du monde. Un serveur vient vers eux. Vous désirez, messieurs? Sylvain lui dit. Un café. Jules, moi aussi. Le serveur s'éloigne. Jules s'est assis en face de Sylvain. C'est pour le voir sans être gêné. Sylvain lui demande. Ta soeur va bien? Oui, merci. Elle est un peu bizarre. C'est la fatigue. Sylvain lui dit. Oui, je m'en suis aperçu. Mais elle est très belle. Et puis j'aime son côté étrange. J'aime les femmes qui ont du mystère. Pas toi? Je lui réponds. Oui. Il se dit. Mon pauvre Sylvain, si tu savais ce que cache ma sœur. Jules est triste de le voir. S'intéresser à Apolline. Cela lui prouve qu'il aime les femmes. Donc, ça ne pourra jamais marcher avec lui. Jamais. Le serveur leur apporte leur café. Sylvain lui dit. Tu as dû avoir des tas d'aventures, toi, avec les filles. Jules rougit et lui dit. Non, pas tellement. Et moi, tu sais, les filles. Sylvain sourit et lui dit. Tu sais ce que c'est ?
Jules rougit. Oui, je sais ce que c'est. Sylvain lui dit. Et puis, tu n'as pas besoin de le dire. De lire tes aventures, puisque tu les mets dans tes écrits. Ça doit être merveilleux de pouvoir dire ce que l'on aime. Je lui dis. Tu sais, si je mettais ce que j'aimais vraiment, je ne serais pas compris. Il y a des choses qu'il vaut mieux se taire. Même à l'être aimé. Sylvain lui dit.
Toi, tu es amoureux.
Je lui réponds. Peut-être bien, mais la personne ne le sera jamais.
Tu es trop timide, faut oser.
Vous êtes tous pareils, vous les écrivains. Vous avez des difficultés à vivre votre vie. Vous êtes trop dans vos rêves. Faut te réveiller et vivre.
Et dis-toi bien que la vie est plus simple que dans tes rêves.
Il suffit de leur parler simplement. Je suis sûr que tu... Si tu disais ton amour à la personne, elle accepterait.
Elle ne chercherait pas midi à 14h.
Je lui dis. Cela m'étonne. Je suis triste, car Sylvain n'est pas aussi ange qu'il ne le croyait. Il va être obligé, avec lui, de jouer les passionnés du beau sexe.
Sylvain lui demande. À quoi tu penses ?
À rien, à toi, à ta façon si directe de parler de tout.
Et puis, si j'étais comme toi, la vie serait sûrement plus facile.
Avec ton visage d'ange, tu peux tout te permettre.
Sylvain lui dit, oh, arrête !
J'ai été malade des années. Passer ma jeunesse à soigner, ce n'est pas drôle.
Tu te rends compte ? À mon âge, j'ai pas pu courir les filles, pas de petite amie, rien.
Alors maintenant que je suis mieux, mais avec ma figure d'ange, comme tu dis, je me prends pas au sérieux. Les filles me regardent, me traitent comme leur petit bébé ou poupée.
Je lui dis en riant, c'est gentil qu'elle te fasse des mamours.
Sylvain lui répond, oui, ça empêche de les pouponner.
Il regarde sa montre et lui dit, faut que je rentre, mère ne va pas tarder.
Je lui demande, nous reverrons ?
Oui, bien sûr, car je tiens à revoir ta sœur.
Je lui est triste et lui dit,
oui, bien sûr, ma sœur, t'intéresse ?
Sylvain lui dit.
Oui.
Je dirais oui.
Quand nous le revoyons,
il se lève, Jules aussi. Jules fait signe pour payer. Un serveur s'approche.
L'addition. Sur lui, il revient.
Jules pâlit. Sylvain lui dit.
Je suis votre invité.
Et vous payez ?
Ils sortent.
Il fait déjà nuit.
Sylvain lui dit, bon, eh bien, au revoir.
Je lui demande, nous reverrons, n'est-ce pas ?
Sylvain lui dit, oui, bien sûr.
Ne sommes-nous pas amis ?
Et puis il rajoute avec un sourire coquin.
Et puis, venez souvent par ici.
Vous devez bien m'aimer, n'est-ce pas ?
Et il s'éloigne.
Jules est troublé. Il lui a parlé d'amitié. Cette dernière phrase n'est-elle pas un côté coquin ? Moqueur ?
S'est-il rendu compte de ses sentiments pour lui ?
Il s'en moque-t-il pas ?
Il le regarde s'éloigner tranquillement.
J'aimerais lui courir après et lui dire « Attends, je t'accompagne jusqu'à chez toi, comme font les enfants. »
Sur le chemin qu'il ramène chez ses parents, je se dis qu'il a une façon toute naturelle de le tutoyer. Peut-être est-ce que je fais partie de son monde. Il ne doit pas avoir de relation. Et sa mère semble surveiller. Merci à la bonne maman. Cela l'empêche qu'il fasse des mauvaises rencontres et qu'il fasse des bêtises. Décidément, il pense à lui comme si c'était son petit garçon. Il y a une chose qui est sûrement ennuyeuse, c'est qu'il ne semble pas être comme lui, qu'il pense qu'aux filles. Comme c'est ennuyeux. Comme c'est ennuyeux de vivre dans un monde où tout le monde est normal. La place est peut-être chez les fous et lui chez les dieux. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à attendre son invitation. Chaque jour, il pense à la phrase qu'il lui a dite. « Tu voudrais bien m'aimer, n'est-ce pas ?» Il se torture pour savoir ce que cela veut dire. Est-ce qu'il ne se moque pas de lui ? A-t-il compris ? Ou est-ce une vérité ? Non, ce ne peut pas être une vérité. Ou une invite. Il ne leur a pas parlé de sa sœur. Oh, celle-là risque d'être entre eux. Et savoir qu'elle va... Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va imaginer? Pourvu qu'elle ne lui fasse pas mal. Si elle pouvait partir, quitter définitivement Lyon. Un jour, sa sœur vient le voir. Elle lui dit, « Je peux passer un moment avec toi ?»« Oui, si tu veux. » Tu dois être en pleine inspiration. Depuis quelques semaines, on dirait que tu vis dans un nuage, lui répond. « Ne crois pas ça. Bien au contraire, j'arrive pas à écrire. » « Que t'arrive-t-il ? » Il soupire et lui dit, « Mes pensées vagabondent sur des choses qui me minent. Explique, c'est trop intime. Ne sommes-nous pas intimes ? Oui, mais là, c'est à moi. » Elle soupire et lui dit, « Bon, moi aussi j'ai des soucis et j'aimerais m'en sortir. Je suis pris dans un drôle d'engrenage. » Il lui demande, « Ta maladie ? » ?»« Oui, si l'on veut, mais plutôt celui qui me traite. C'est un vieux cochon. » Mais ne le répète pas. « Pourquoi vas-tu le voir alors ? Parce qu'il me donne ce dont j'ai besoin. » Demande-en à un autre. C'est impossible, avec lui c'est gratuit et c'est cher. Tu pourrais pas me donner un peu d'argent? Te faut combien? Elle hausse les épaules et lui dit, le plus que tu peux. Il regarde dans le portefeuille de sa veste, prend un billet et le lui donne. Merci, il lui dit, en échange de ce service, je remets, c'est que tu m'en rendes un autre. Oui, bien sûr. Voilà, je ne veux pas que tu fréquentes Sylvain Dupin. Elle hausse ses épaules et lui dit, si ça te chante, pourquoi? Comme ça, elle lui dit, va, t'en fais pas. Tu peux le garder. Merci. Jules est gêné. Et a dû tout de suite comprendre le sentiment qu'il a pour Sylvain. Quelle honte, elle risque de lui faire chanter. Décidément, je ne fus fait que des bêtises. Le médecin n'a pas vu sa petite fille de 15 jours. Il en est attristé. Lorsqu'elle retourne le voir, puisqu'elle ne peut pas tout le temps demander de l'argent à son frère, le médecin, en la recevant, lui dit avec tristesse « Tu m'as beaucoup manqué de 15 jours, ma Mimi. Tu m'as beaucoup manqué. Et Arthur aussi. » Arthur, c'est le nom de son sexe. Elle hausse les épaules et lui dit « Eh bien, par moi. C'est pas gentil ce que tu me dis. Surtout, sans moi, tu n'aurais pas ce que tu aimes. » Elle soupire et lui dit « J'aimerais bien l'avoir autrement, ce que j'aime. » Il prend sa règle sur la table et en donne un coup. « J'aime pas ta façon de parler, ma petite. Sinon, tu auras affaire à moi. » Elle lui dit « Vous ne me faites pas peur. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. J'en ai assez de venir vous voir. Et j'aimerais bien me débarrasser de votre aide. »«
Malheureusement, tu ne peux pas. Je te tiens. » Si tu ne veux plus me voir, j'irai dire à ta mère ce dont tu souffres.
Elle lui répond. Et moi, je lui dirai comment vous me soignez.
Elle ne te croira pas. Et je lui dirai que ce sont des élucubrations, des hallucinations, des fantasmes de drogués. Il faudra expliquer à un de mes confrères ce que fait l'opium. Tant que j'aurai besoin de toi, tu viendras me voir. Et dis-toi bien que le jour où j'en aurai assez, je te referai faire un petit voyage du côté des milieux et une nuit. Assez parlé, monte-toi ta poitrine.
Elle s'exécute.
Madame Désir.
Après avoir fumé son opium, elle est sortie de chez le médecin. En se disant, me le paiera ce vieux porc. Je ne resterai pas longtemps son esclave. Le chemin du retour n'eut déluvien. Si je me mariais avec un homme riche, le docteur ne pourra plus rien pour moi. Si dis-toi à mon mari, le mari par peur du scandale le fera taire. J'aurai libre de nouveau. Oui, un bon petit mari, bien riche. Sa vie l'a rendu complètement immorale. À une soirée des Beaumandins, Jules voit avec surprise que Sylvain est présent. Il va vers lui et lui dit « Quelle heureuse surprise !»« Oui, c'est votre mère qui m'a invité. J'ai tout de suite accepté, cela me permettrait de nous voir. » Jules est aux anges. Le beau Sylvain va être toute la soirée auprès de lui. Sylvain lui demande « Votre sœur n'est pas là ?» Malheureusement, ça ne dure pas. Il se dit qu'il est venu pour sa sœur. Sa sœur qui risque d'être toujours entre eux. Au diable, Apolline. Il lui répond, non, je ne sais pas où elle est. Et il est fort semblable qu'elle ne vienne pas. Elle est assez lunatique, vous savez. Si vous le désirez, l'on pourrait passer un moment agréable, comme la dernière fois dans le bureau de mon père ?» Sylvain s'ouvrit avec son beau sourire et lui dit « Oui, je veux bien. » Et il s'éloigne pour quitter le salon et ses invités. Juste au moment où il franchit la pièce, il tombe nez à nez sur Apolline, habillée d'une robe gris-perle. Sylvain, son visage s'illumine. « Bonjour, mademoiselle. Bonjour, ou plutôt bonsoir. » Elle s'apprête à le quitter lorsque Sylvain lui dit « Puis-je vous inviter à danser ?» Elle le regarde bien, sourit et lui dit « Pourquoi pas ? Mais je vous préviens, je suis qu'une piètre danseuse. Moi aussi, malheureusement. » Il lui prend la main, elle la prend et il s'éloigne. Jules, a le corps gros, se trouve seul. Tout en dansant, Sylvain lui dit « Je suis très heureuse de vous revoir. Depuis notre dernière rencontre, j'ai pensé à vous très souvent. » Elle sourit, lui dit « Vous n'êtes pas obligé de faire la cour, petit jeune homme. » Il lui dit « Mais je ne fais pas. Je ne me force pas. Pourquoi me parlez-vous comme ça ?» Et lui répond « Parce que les jeunes gens me fatiguent. » Il lui dit « Il n'y a pas tant de différence d'âge entre vous et moi. Je crois que nous avons presque le même âge. » Elle lui dit « Peut-être, mais un homme est plus mûr, beaucoup plus tard qu'une femme. Moi, j'aime les hommes mûrs. » Il lui dit « Merci, mais pourquoi vous acceptez de danser avec moi ?» Elle lui répond « C'est pas parce que l'on accepte de danser avec une personne que cela veut dire qu'on accepte tout. Vous avez raison. » Il continue à danser. Sylvain est dépité de cette jeune fille désagréable mais tellement belle. Elle lui demande « À quoi pensez-vous ? » Je me disais « Quelle fille désagréable, mais tellement belle !» Elle lui dit « Merci !» et se met à rire. Lui aussi se met à rire, la voyant rire. Jules, qui les voit rire, devient de plus en plus triste et décide, l'âme en peine, de quitter la soirée. Décide de marcher, de sortir un peu pour se calmer. Il est 23 heures, les rues sont vides et silencieuses. Il marche d'un bon pas au hasard en se disant qu'il a perdu Sylvain. Son corps se gonfle, il a envie de mourir. Je ne suis pas fait pour ce monde. Je ne serai jamais heureux. Il aimerait mourir, pouvoir oublier Sylvain et son visage, son beau visage. Il a constamment devant les yeux. Comment continuer à vivre tout en sachant qu'un autre l'aura près de lui? Comment vivre tout en sachant
qu'il ne le reverra plus. Mon Dieu, quel poison horrible que l'amour. L'on aime ce qui est impossible d'aimer. Et puis même, si l'on a personne, elle vieillit, s'effrite et devient poussière. L'amour n'est qu'une illusion. Tout n'est qu'illusion. Moi aussi, nous sommes illusion, pauvre illusion. Ce corps dont nous sommes si fiers ne cache que de la pourriture. Ce corps que nous désirons ne cache que la mort. Ce visage, cette perfection de la beauté, ce n'est qu'un masque qui s'effrite, se ride. Je pleure, pleure. En refusant d'accepter que Sylvain, le beau Sylvain, au visage si fin, si doux, va vieillir et devenir laid et répugnant. Il aimerait mourir. Mourir. Comment peut-on vivre dans un monde pareil? Ah, que les statues ont de la chance. Elle peut traverser les siècles et même les millénaires en gardant leur jeunesse. Mais elles sont froides, sans humbles. Elles n'ont pas la douceur de cette peau. Elles ne savent pas sourire ou que d'une façon figée. Sylvain, avec ses beaux yeux, ses épais cheveux si doux, sa façon de marcher. Pourquoi aimer tout ça? Alors que ce n'est qu'illusion. Mais non, il l'aime, il l'aime. Et même cette illusion peut durer 10 ans, 20 ans peut-être. De toute façon, ne m'aimera pas. Le perdre m'est insupportable. Il s'arrête de marcher, regarde autour de lui. Il ne sait pas où il est. Une rue étroite avec de pauvres maisons. Au bord de la rue, il voit la Saône. Il y va. Il va vers la Saône. Envahit son corps, musique qui l'élève et lui ferait faire n'importe quoi, n'importe quel bel acte beau et noble. La vie n'existe plus pour lui, il a tout oublié. Arrivé au bord de l'eau, une eau que la pleine lune donne des reflets argentés, des fils d'argent sur de la soie noire. C'est beau. On entend le clic-clic de l'eau qui vient se cogner sur la berge. La musique de Jules joue plus fort, plus grand. Il se sent envahi, pris. Sylvain, Sylvain, Sylvain. Et la musique le prend. Le guide l'enlace vers cette soie noire et argent pour pouvoir le recouvrir de son manteau et oublier. Très fortement. Ce n'est pas encore ton heure, mon petit. La musique s'est arrêtée. Il retombe. Sylvain, la vie, la nuit, la mort, tout. Toutes les peines du monde retombent sur ses épaules. Larmes aux yeux, il se retourne. Un homme grand, mince, dans le noir qui lui dit « Vous n'êtes pas bien ?»« Oui, on ne dirait pas. Voyons, il ne faut pas vous mettre dans un état pareil. Vivez, c'est tout. Venez, marchons. Il n'est pas bon de rester ici. » Il prend par le bras Jules et il remonte la berge. Passant devant un réverbère, Jules voit que l'homme semble jeune, dans les 26-27 ans. De son chapeau sort des mèches noires. Le visage est agréable. Sa gabardine coupe tailleur. Une fois dans la rue, l'homme lui dit « Je sais, c'est pas facile de vivre, depuis que l'on vit. Et puis, le temps passe vite. Que vous est-il arrivé? Une histoire d'amour? Je voulais guérir, vous devez écrire votre histoire. Et vous verrez, ça ira mieux. Vous allez s'ouvrir, puis petit à petit, vous y penserez avec mélancolie et même un peu d'humour. L'amour, c'est qu'une maladie ou une comédie. Rien de plus. Vous voulez boire quelque chose chez moi? Non, merci. C'était par amitié. Puis, cela vous fera du bien de vous reposer un moment avec moi. Un petit entracte à la vie. Nous en avons bien besoin, non? Je souris, je lui réponds. Pourquoi pas? De toute façon, je ne devrais pas être là. Vous habitez loin? Non, pas très loin. Je le suis. Il le met dans une petite rue où se trouvent que des petites maisons d'un à deux étages assez coquettes. Arrivé devant un portail, le lui dit « C'est ici ». Il ouvre le portail de fer, fait entrer Jules dans un petit parc où se trouve une petite maison d'un étage. L'homme lui dit « C'est la maison de mes grands-parents que j'ai hérité. J'ai trouvé cet endroit agréable et calme. Très agréable pendant les beaux jours. Comme j'ai pas voyagé, je reste toute l'année ici. Venez, allons. Le mène à la maison, ouvre la porte. Petit couloir carrelé. La maison est en style, mais agréable. Il a quitté sa gabardine et son chapeau. Il paraît plus jeune et demande son manteau à Jules, qui dépose sur une chaise. Puis,
il va ouvrir une porte dans le couloir. Entrez.
C'est un petit salon meublé agréablement à l'anglaise. On s'y sent tout de suite. L'homme lui dit, prenez le fauteuil près de la cheminée. Jules y va. L'homme va vers la cheminée, se baisse et dit « Je vais faire une petite flambée, ça nous réchauffera le corps. » Prend des allumettes à terre et met le feu à des branchettes et une bûche. Il y a en face de la cheminée une petite table basse et deux fauteuils de cuir marron. Puis il dit à Jules « Je vais vous préparer une boisson. » Ça vous fera du bien. Il va vers la table basse et où il y a deux bouteilles, des bouteilles et des verres, et serre.
C'est du cognac. Vous aimez ?
Oui, merci. L'homme lui tend son verre et s'assoit dans le fauteuil en face de Jules.
Buvons.
Ils boivent sur leur cognac. L'homme lui dit :
Faut que je me présente. Marc Girardon, sans profession. Âge, qu'importe. Et vous ?
Moi, Jules Beaumandin. J'écris de temps en temps et poursuis mes études.
Marc lui dit : Et vous avez voulu en finir avec la vie, comme si vous étiez libre de votre destinée. Moi, il m'arrive de m'imaginer que nous sommes des personnages de romans, qu'on manipule, qu'un romancier sadique manipule à sa guise.
Je lui dis, comme des marionnettes ?
Oui.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Les délires de la sublimation, dont c'était la 28e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.